Les vœux présidentiels, c'est une tradition française et un exercice toujours très particulier pour les chefs d'État, mais ce soir plus encore, à 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron sera le 5e président sortant à vouloir officieusement briguer un nouveau mandat. Avant lui, 2 ont réussi, Mitterrand et Chirac, 2 ont échoué, Giscard et Nicolas Sarkozy, 1 a jeté l'éponge dès décembre, François Hollande, et il l'a regretté. Alors, que faut-il attendre de ces vœux, alors que la campagne est spectaculairement rattrapée par le Covid, et alors que dès demain, samedi, Emmanuel Macron prendra officiellement la tête de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Les Français s'intéressent-ils déjà à l'élection? La gauche va-t-elle surmonter ses divisions? Une femme peut-elle être la prochaine locataire de l'Élysée? Bonjour Yael Gauz.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Pour y voir plus clair, nous recevons ensemble quelqu'un qui scrute l'opinion et la campagne. Bonjour Édouard Le Cerf.
Bonjour.
Vous êtes directeur général adjoint du groupe BVA, entreprise d'études et de conseils, et à vos côtés un politologue spécialiste de l'Europe, Thierry Chopin, bonjour à vous. Thierry Chopin n'est pas en ligne. Alors, on va la
une connexion
on,
un petit
on a
peu
une petite connexion.
On va ranger tout ça.
Voilà, oui. on va le retrouver dans quelques instants. Thierry Chopin est conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors et prof de sciences politiques à l'Université catholique de Lille. Pour vous interroger, on compte aussi, bien sûr, sur vous les auditeurs. Appelez-nous au 01 45 24 7000 ou réagissez sur les réseaux sociaux et sur l'application France Inter. Des vœux présidentiels, on pourrait dire que c'est un marronnier politique depuis De Gaulle, sauf qu'ils s'inscrivent dans un contexte inédit. Jamais on a vu une campagne présidentielle percutée à ce point par une crise sanitaire si près de l'échéance. Quel peut être l'impact de la vague Omicron sur la campagne, sur la fonction d'un président qui va devoir se muer en candidat, Édouard Le Cerf?
L'impact, il va être de plusieurs natures. Hein. L'impact, il existe déjà, parce qu'on ne parle que ça, vous venez de l'expliquer. La campagne va être dans son exercice perturbé. On le voit bien, les meetings, les rassemblements, les différents éléments qui font habituellement ce qu'est une campagne vont être perturbés. Elle va être également perturbée dans ses thèmes, on vient de le dire, puisqu'aujourd'hui, on parle uniquement de Covid, et ça va être un élément qui va continuer. Parce que ce soit sur le bilan ou sur la suite, eh bien, on va être complètement dans cet environnement Covid. Sur l'image des candidats aussi, parce que qu'est-ce qu'on attend d'un candidat, qu'est-ce qu'on attend d'un futur président ou d'une future présidente à l'égard de crises comme celle-là? Ça va naturellement aussi engager les choses de manière différente. Et puis on peut se dire que finalement ça peut avoir un effet au final sur la participation, parce que est-ce que les Français vont entrer dans la campagne de la même manière quand on aura un contenu programmatique un peu plus réduit? Est-ce qu'ils vont aller voter? C'est une vraie question si on regarde ce qui s'est passé en 2021 avec ces élections régionales qui ont vu une baisse de la participation confirmée hein, après celle des municipales en 2020. C'est une vraie question là aussi.
Édouard Le Cerf, c'est un atout ou un handicap pour un président sortant comme Emmanuel Macron qui va recandidater d'être dans cette situation de gestion de crise? Je vous pose la question parce que, voilà, en toute proportion gardée, la comparaison n'est pas raison. Churchill, après la Seconde Guerre mondiale, n'est pas réélu en Grande-Bretagne. Pourtant, c'est lui qui a protégé les Anglais. Prenons l'exemple du Covid. Est-ce que pour vous, cette gestion de crise est un atout ou un handicap pour lui?
C'est les deux, mon général. C'est les deux, naturellement, parce que vous avez les atouts de quelqu'un qui est le chef de guerre. Et donc, on le voit bien dans les enquêtes d'opinion, lorsqu'on interroge, alors plutôt du côté des soutiens d'Emmanuel Macron. Il faut se souvenir qu'il y a à peu près aujourd'hui 40% de Français qui ont plutôt une bonne opinion. Donc, cette partie-là, qui est certes minoritaire, mais qui est plus importante que celle qu'ont eu ses prédécesseurs, cette partie-là de l'électorat, ou en tout cas des citoyens, nous dit quoi? Il était là, il a tenu, il s'est adapté, et finalement, il réussit à faire bouger les choses sur cette partie-là. Mais bien sûr, vous avez toute une autre partie qui va insister sur quelque chose qui est tout aussi vrai que ce qui est l'impact, naturellement, de cette crise et de la fatigue. Moi, ce que je trouve qui est très frappant dans cette fatigue, c'est qu'en général, on parle de telle ou telle partie de population qui est fatiguée. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez les élèves et les profs qui sont fatigués, les salariés et les chefs d'entreprise qui sont fatigués, les malades et les soignants qui sont fatigués. Donc on a l'ensemble de la société, il n'y a pas d'endroit où l'on se dise il y en a qui sont là pour soutenir les autres, tout le monde est un peu fatigué. Donc oui, bien sûr, ça c'est un handicap, et réussir à passer au travers ça est compliqué.
Et on a retrouvé Thierry Chopin en ligne. Bonjour Thierry Chopin.
Bonjour.
Bonjour.
Pas de reconfinement, pas de couvre-feu, pas d'école fermée, quelques restrictions en plus. Est-ce qu'on peut dire qu'Emmanuel Macron, parmi les chefs d'État européens, est celui qui a le moins resserré les conditions sanitaires jusqu'ici?
Ah, on a encore un petit problème.
C'est un blanc. Bon, on va revenir au national. Quel est son pari, Édouard Le Cerf, au président? Que la vague va passer rapidement sans saturer l'hôpital? C'est un pari à nouveau?
Ah, bien sûr, ça c'est un pari, on va dire, de court et de moyen terme, c'est la capacité à pouvoir se dire que tous les efforts que les Français ont faits, il va devoir reconnaître. Ce soir, ses efforts, il va réinsister sur le fait que la population française dans son ensemble a fait beaucoup d'efforts pour avancer, puisse effectivement, c'est un élément de preuve immédiate, c'est-à-dire que c'est aussi comme ça que fonctionne la politique. Aujourd'hui, on attend des politiques qui nous disent quelque chose, qui nous mettent en avant des éléments, des mesures, et qu'elles aient des effets, et qu'elles soient palpables, que ces effets soient palpables. Donc oui, naturellement, à court terme, c'est un élément important.
Alors, son grand défi pour le moment, ça va être de faire passer dans l'opinion la nécessité du pass vaccinal. On voit à quel point l'angle d'attaque des libertés crée un front commun qui va de Philippot à Mélenchon en passant par Le Pen et Zemmour. Même le Conseil d'État dit qu'il y a une atteinte aux libertés.
Oui, c'est vrai que c'est une vraie question. C'est une question sur laquelle les Français aujourd'hui sont là aussi partagés, parce qu'il y a ceux qui disent on peut effectivement accepter un certain nombre de restrictions des libertés, et ils le comprennent comme tel. Il faut se souvenir qu'il y a encore 6 mois, lorsqu'on les interrogeait, les Français, sur le fait de est-ce qu'il faut être un peu plus dur, ils nous disaient oui, en majorité, quand je dis ils nous disaient, la majorité d'entre eux nous disaient. Mais il y a de plus en plus, et la campagne électorale va jouer de cet élément-là, parce qu'une campagne électorale telle qu'elle va se profiler, c'est une campagne électorale sur laquelle la polarisation va être un des leviers, ça va être un des moyens.
C'est-à-dire
dire qu'il y a un groupe qui est pour la mise en avant des libertés, même si cela peut impacter un tout petit peu la situation sanitaire, et d'autres qui vont effectivement dire les choses de manière différente. Donc, vous avez à voir des candidats qui vont jouer cette polarisation, parce qu'elle est efficace, parce qu'elle permet de fabriquer un camp, parce qu'elle fabrique de la dynamique, voire de la densité. Et sans doute, ce soir, Emmanuel Macron va devoir faire un exercice un peu différent, qui est celui de... Non, c'est pas la polarisation, c'est l'alliance, c'est le fait de faire quelque chose ensemble, c'est le fait d'avoir un projet commun, c'est le fait de se retrouver. Alors même que l'on sait que les Français nous disent, pendant cette crise et à l'issue de cette crise, eh bien, la tension entre les groupes, la difficulté à se parler est d'autant plus importante.
Cette fois, c'est bon, on a retrouvé par téléphone le politologue Thierry Chopin. Cette question des libertés traverse toutes les sociétés européennes, liberticides ou pas, les restrictions. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'Emmanuel Macron fait un pari très différent de ses voisins? Est-ce qu'il y a une Europe des restrictions?
Non, je crois qu'on peut pas dire qu'il y ait une Europe en fait des restrictions, que la crise sanitaire impacte nos démocraties libérales, c'est un fait, et ce sur plusieurs enjeux en fait qui sont partagés malheureusement par l'ensemble des pays européens, avec des nuances variables néanmoins en fonction des cultures politiques des différents États membres. Le premier enjeu, c'est clairement la question de l'équilibre entre les pouvoirs exécutifs d'un côté et les contre-pouvoirs de l'autre, pouvoir législatif, mais aussi pouvoir judiciaire. Et à cet égard, il est assez clair que en fonction des pays membres de l'Union européenne où on se trouve, l'accent est plus ou moins fortement mis sur le contrôle parlementaire des décisions qui sont prises. Par ailleurs, un deuxième enjeu qui me semble très, très important dans ce contexte de crise sanitaire renvoie à la question alors, c'est, d'ailleurs, ce que je vais dire est plutôt lié à la première phase de la crise pandémique, mais on voit bien qu'on n'est pas complètement sorti de ce risque-là. C'est l'enjeu en fait de la liberté de circulation et notamment l'impact sur l'espace Schengen que peut avoir cette crise pandémique, puisque l'ouverture est devenue en réalité l'exception, tandis que la fermeture des frontières a pu devenir la règle pendant cette crise pandémique, même si les choses se sont améliorées ces derniers mois. On pourrait multiplier les exemples à cet égard.
Oui. Les libertés, vous avez peut-être écouté l'édito de Simon Le Baron tout à l'heure, l'ADN d'Emmanuel Macron, c'est d'être un libéral profondément. 2016-2017, sa campagne est là-dessus. Il est obligé de se faire violence aujourd'hui. Tout ce quinquennat est percuté par des décisions sanitaires qui visent à protéger, mais qui aussi restreignent les libertés. Souvent, en Conseil des ministres, il pousse des coups de gueule en disant « il faut arrêter d'emmerder les Français », reprenant les mots de Pompidou. Il est obligé un petit peu de les emmerder malgré lui.
Oui. Le plus important, c'est de réussir à faire comprendre que, certes, il y a des contraintes de plus en plus importantes, mais que ces contraintes sont pour un bien. Et c'est l'équilibre entre les deux qui est compliqué à trouver. C'est la capacité à pouvoir dire que je vous embête, ou en tout cas, je prends un certain nombre de décisions, et naturellement en reconnaissant le fait que les Français sont capables de les suivre, mais tout ça pour un bien. Encore une fois, c'est un effet de relativement court terme. C'est toujours cette idée qui est importante aujourd'hui dans la manière dont les citoyens fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils sont sans doute prêts à accepter un certain nombre nombre de choses, si tant est que demain, ou que presque tout de suite, il y ait un effet positif. Donc c'est cet effet-là, cet équilibre entre ces libertés-là, qui sont certes un peu contraintes, et encore une fois, il ne faut pas négliger le fait que les Français soient plutôt compréhensifs. On disait qu'ils n'étaient pas prêts à se faire vacciner, finalement, effectivement, ils y sont allés, avec des éléments presque de contraintes, hein, parce que ce sont des contraintes qui amènent à voir la vaccination progresser encore. Donc, c'est cet équilibre-là entre un président de la République qui, certes, se fait un peu violence, et il va devoir le dire en disant « Je suis désolé, en quelque sorte, de devoir imposer ces choses-là, mais vous savez que c'est pour le bien de tous. » Donc, c'est cet équilibre pas simple à trouver.
Bon, venons-en à la campagne qui n'a pas officiellement commencé, hein, pour Emmanuel Macron, puisqu'il n'est pas officiellement candidat. Jusqu'à l'été dernier, le scénario qui se profilait, c'était un match retour Le Pen-Macron. Est-ce que les cartes sont complètement rebattues, à votre avis, aujourd'hui ?
Alors, c'est trop tôt pour le dire. Elles sont aujourd'hui, telles qu'on le constate dans les enquêtes d'opinion, effectivement pas tout à fait celles qu'on avait en tête il y a six mois, où c'était le schéma tel que vous venez d'expliquer. Aujourd'hui, on est sur quelque chose, si on fait un petit panorama extrêmement rapide, à gauche, effectivement, l'incapacité à pouvoir se choisir une ligne, ouais, quelque chose de central. Vous avez à la fois des candidats qui sont trop faibles, sans doute électoralement, tels que disent les sondages, trop faibles pour pouvoir s'imposer, mais qui se sentent trop forts pour pouvoir se retirer. Donc on est sur un schéma qui est extrêmement compliqué aujourd'hui.
La gauche unie, vous y croyez-vous ?
Alors, moi, que je y crois ou quoi, c'est autre chose. La capacité à pouvoir retrouver cette dynamique-là, vous savez que c'est compliqué. La politique, c'est de la dynamique. C'est de la dynamique et c'est de la physique aussi. C'est de la densité. Est-ce que quelqu'un est capable d'avoir une densité suffisante pour pouvoir attirer les autres électrons ? Aujourd'hui, chacun d'entre eux a le sentiment qu'il est celui qui va être le noyau central. Donc il faut d'abord qu'il s'accorde. Si on va sur la droite très rapidement, la capacité aujourd'hui qui est intéressante, qui est importante, c'est le fait de montrer que peut-être on peut effacer le trauma de 2017.
De François Fillon.
François Fillon. On peut retrouver une crédibilité présidentielle. Et on le voit dans les enquêtes. Alors c'est vrai que ces enquêtes participent, elles aussi, et ces sondages, en disant, bah oui, il peut y avoir équilibre, il peut y avoir un second tour partagé. Ça crée quelque chose, ça crée une dynamique, ça crée un potentiel. Mais naturellement, vous le citiez, à la droite de la droite, eh bien, sans doute le premier élément à avoir en tête aujourd'hui, c'est bien sûr la bataille entre Éric Zemmour et Marine Le Pen pour un certain nombre d'électeurs, mais c'est bien sûr l'abaissement du seuil potentiel de qualification.
C'est une bataille, Éric Zemmour contre Marine Le Pen, ou c'est un bloc à la fin qui peut s'unir contre Emmanuel Macron ?
Alors c'est une bataille aujourd'hui, naturellement, on est encore très tôt dans la campagne, donc naturellement c'est une bataille pour les électeurs et pour les électorats, la capacité à pouvoir attirer des électorats, à pouvoir les retirer éventuellement au potentiel de Valérie Pécresse. On le voit bien, d'ailleurs, c'est intéressant de ce point de vue-là. On a vu, on a dit Éric Zemmour, formidable dynamique, puis arrêt de la dynamique. Et on a même parlé de décrue. Aujourd'hui, on va dire grosso modo, ils sont à peu près dans les mêmes niveaux, à des niveaux autour de 15%, qui est un niveau qui est important, parce que c'est le niveau auquel on pourrait éventuellement aujourd'hui
c'est
avoir
un ticket d'entrée.
Une qualification. Il faut aussi noter que le Rassemblement National est revenu, dans les intentions de vote, avec toute la prudence que cela impose, à un étiage des 14, 15, 16%, qui est celui plutôt classique du autrefois Front National, et aujourd'hui le Rassemblement National.
Ticket d'entrée, soulignons-le, très fragile, puisque l'abstention pourrait atteindre des records. L'intérêt pour la présidentielle aujourd'hui, vous le confirmez, est nettement moins fort qu'il y a 5 ans à la même période.
Oui, mais on vient de parler naturellement de l'effet Covid, qui est un effet ralentisseur sur tout cela. C'est un effet...
anesthésiant.
Effectivement, anesthésiant, mais c'est un élément extrêmement important. Tout ce que l'on mesure aujourd'hui, on le mesure auprès d'électeurs qui sont intéressés par la campagne, qui se disent à peu près sûrs de leur choix pour aller voter, qui ont l'intention d'aller voter, et on passe pour l'instant à côté, mais c'est normal, parce qu'on n'est pas encore complètement dedans, à côté de ces millions d'électeurs qui ne se sont pas encore décidés, ou qui changent d'avis, et c'est bien normal de changer d'avis, sinon une campagne ne servira à rien, sinon la démocratie ne vivrait pas. Donc c'est naturellement un moment où on est encore en train de voir les acteurs se positionner sur la scène de théâtre.
Venons-en à l'Europe et à cette présidence française donc pour 6 mois, avec vos questions bien sûr au standard. On a Françoise, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue.
Oui, merci France Inter. Ma question, monsieur, n'eût-il pas été plus honnête de la part du candidat Macron, en pleine campagne pour sa réélection en France, de reporter sa présidence européenne qui lui offrira immanquablement un avantage démesuré au regard du temps de parole de ses concurrents ?
Thierry Chopin, peut-être, voilà. Pour répondre. 3 mois utiles seulement sur les 6 ?
Oui, alors effectivement, d'abord il y a un hasard de calendrier, c'est-à-dire que c'est pas le calendrier initial qui était prévu, le calendrier de coïncidence entre cette présidence française et l'élection présidentielle, puisque c'est un effet du Brexit qui a eu pour impact de modifier l'ordre des présidences. la France aurait pu demander un changement de calendrier pour effectivement éviter cette coïncidence entre les deux présidents, si je puis dire. Le président de la République ne l'a pas souhaité. Il aurait quand même fallu l'unanimité des États. Ce qui n'aurait peut-être pas été obtenu. Donc évidemment, cette coïncidence entre les deux présidences peut avoir un impact, d'ailleurs un impact ambivalent, puisque d'un côté, comme le disait notre auditrice, ça peut être un atout pour le président français, lui permettant de réaffirmer son engagement européen auprès de son électorat, et en même temps, je dirais que ça peut aussi présenter un risque, puisque ses adversaires politiques pourraient très bien utiliser cette concomitance des deux présidences pour développer un discours très critique sur la politique européenne conduite par le président. Donc je dirais que ça marche dans un sens, mais aussi dans un autre, en fait, potentiellement, et qu'il y a une ambivalence des effets qui peuvent être produits par cette coïncidence.
Oui, il y a une réaction à l'instant d'Aïda sur l'application France Inter qui nous dit qui demande quel avait été l'impact de la présidence française de l'Union sur la cote de popularité de Nicolas Sarkozy en 2008. Elle ajoute, on parle souvent d'un tremplin pour la campagne d'Emmanuel Macron, mais je doute que les sujets européens intéressent autant les électeurs, Thierry Chopin.
Sur l'impact en fait des sujets européens sur la campagne, traditionnellement, mais je parle sous le contrôle d'Edouard Lefebvre, une campagne électorale pour la présidentielle ne se joue pas nécessairement sur des enjeux extérieurs dont font partie en fait les sujets européens. Néanmoins, les sujets européens ont aussi une dimension domestique et on peut en prendre plusieurs exemples, clairement sur les enjeux climatiques qui sont très hauts dans les attentes, qui figurent très haut dans les attentes de l'opinion publique en France, mais aussi ailleurs. Il y a une dimension nationale, il y a clairement une dimension européenne et aussi une dimension internationale. Sur les enjeux liés à la gestion de la crise sanitaire, il y a clairement une dimension nationale et domestique, il y a aussi une dimension européenne. On l'a vu avec l'achat en commun des vaccins, par exemple, et la campagne vaccinale européenne qui a été lancée il y a un an maintenant, en commun. Et on pourrait multiplier les exemples. Donc, de ce point de vue-là, je trouve quand même que les sujets européens peuvent cristalliser un certain nombre de termes du débat, y compris dans le cadre de la campagne nationale pour l'élection présidentielle.
À l'Élysée, on dit que tout est entremêlé finalement. Régulation des GAFA, taxe carbone aux frontières, nouveau Schengen pour réguler l'immigration, tout ça c'est du niveau européen et pour agir au niveau français. Édouard Le Cerf, ce qui se passe dans l'opinion des Français à l'égard de l'Europe, c'est un petit peu compliqué. Sondage JDD la semaine dernière, 2/3 des Français se disent fiers d'être européens, les Allemands sont 3/4 à le dire, les Italiens 4/5. Pourquoi il y a ce décrochage français vis-à-vis de cet idéal européen ?
Alors, c'est pas seulement vis-à-vis de l'idéal européen. Vous avez un décrochage français dans toutes les enquêtes comparatives internationales dont on peut parler. Thierry Chopin les connaît parfaitement bien, les enquêtes de l'Eurobaromètre. La dernière livraison qui date un peu de l'Eurobaromètre montrait effectivement les Français avec 36% de confiance dans l'Union européenne contre 50% de défiance, ce qui place la France en 26e position sur 27.
26 sur 27, 26.
Seule la Grèce est un niveau inférieur.
Et Thierry Chopin?
Oui, alors effectivement, il y a une relation en fait très ambivalente des Français vis-à-vis de l'Europe de manière générale. Il y a un attachement, d'abord, il faut quand même le rappeler, majoritaire à l'appartenance de la France à l'Union européenne. Il n'y a pas d'europhobie majoritaire dans ce pays. Il n'y a pas de volonté de sortir de l'Union européenne. Et en même temps, ça s'accompagne d'un degré de défiance et de scepticisme qui est très fort et effectivement qui fait que notre pays figure parmi le groupe des pays les plus critiques vis-à-vis de la construction européenne. Ça, très, très clairement. Il y a une fracture sociale qui est très nette, hein, d'ailleurs, à cet égard, puisqu'il y a une ligne de clivage très forte qui structure, en fait, la perception des Français vis-à-vis de l'Union européenne. Et vous avez une perception qui est négative dans les classes populaires, chez les ouvriers, chez les chômeurs et chez ceux aussi qui ont terminé leurs études avant 16 ans. Et en même temps, cet euroscepticisme très fort, il est complexe, il est loin d'être systématique, et il y a une véritable ambivalence qui fait que d'un côté, vous avez des Français, et je veux dire chez les mêmes personnes, qui peuvent être favorables à cette construction européenne du point de vue d'un certain nombre de valeurs clés qui sous-tendent cette construction, l'ouverture aux autres, les valeurs politiques qui sous-tendent cette construction européenne, la liberté de circulation, l'attachement à l'euro notamment. Et en même temps, un scepticisme chez les mêmes personnes vis-à-vis d'un certain nombre d'attentes vis-à-vis de cette construction européenne qui sont déçues par manque de résultats. Et notamment, on le voit très bien dans le domaine de la régulation des flux migratoires et aussi dans le domaine de la protection de la sécurité collective. Et très clairement, ce qu'on voit dans les études qu'on peut faire, c'est que l'élément majeur du rapport de défiance des Français à l'Europe, ce qui pousse les Français à devenir de positifs à sceptique vis-à-vis de cette construction européenne, c'est la méconnaissance en fait de l'Europe. C'est la question de l'information est de ce point de vue-là absolument majeure. Et on pourrait ajouter aussi qu'un autre élément très très important relève aussi du facteur culturel, puisque très très structurellement, les Français ne se reconnaissent pas ou pas suffisamment bien en fait dans cette construction qui est assez orthogonale avec ce qu'ils sont fondamentalement du point de vue de leur identité politique. La France est un État centralisé, l'Union européenne c'est une fédération d'États-nations qui repose sur le compromis négocié. L'Europe est un marché, qu'on s'en réjouisse ou que ça nous déplaise, les Français sont plutôt défiants vis-à-vis du marché, vis-à-vis du libéralisme et du libre-échange.
Mais attaché à l'euro, on l'a vu 20 ans après, l'euro est quand même un élément de stabilité, y compris dans le personnel politique français. Marine Le Pen ne veut plus sortir de la monnaie unique. Édouard Le Cerf, la campagne que nous allons vivre sur les questions européennes, est-ce que ça peut être un remake de 2019, des européennes avec un bloc contre bloc? À l'époque, on disait mondialiste contre patriote quand on était au RN, ou progressiste contre nationaliste quand on était marcheur.
C'est vrai que si l'on va peut-être pas faire de l'Europe ou de la construction européenne, même si ce soir on en parlera sans doute pendant les vœux d'Emmanuel Macron, le sujet central de la campagne, en tout cas pas aujourd'hui, la question de l'Europe est une question fondamentale en ce sens qu'elle permet de positionner les gens sur leur capacité à se projeter dans quelque chose qui va au-delà simplement de la France, au-delà du cercle national, en se disant on a un avenir commun, différent, et en s'ouvrant. Et c'est vrai que cet élément-là va rester structurant sur la campagne. Il y a certains qui préfèrent dire que c'était mieux avant, qu'on reste entre nous le plus possible. Et naturellement, Emmanuel Macron, en prenant la présidence de l'Union européenne, va devoir mettre en avant ces valeurs-là, ces valeurs de capacité à se projeter. C'est pas simple, parce que parler de l'Europe, c'est aussi pouvoir comparer les Français aux autres pays, voir comment les opinions, et Thierry Chopin le décrivait parfaitement, les opinions un peu ambivalentes à l'égard de l'Europe. C'est vrai que toujours en comparaison, la France est un pays et le pays sur lequel des évocations comme celle de la mondialisation, des évocations comme celle du progrès technologique sont plus négatives. Et en plus, vous avez cet autre élément très important, c'est en France qu'il y a la plus grande difficulté par rapport à tous les pays européens, les 27 dans lesquels sont réalisées ces enquêtes, et bien pouvoir dire « demain sera mieux pour moi et pour les générations futures ». Et passer au-delà de ça, c'est très compliqué.
On a une dernière question qu'on va prendre au standard de la part de Farid qui nous appelle de Paris et qui va s'adresser à vous, Édouard Le Cerf. Bonjour Farid.
Oui, bonjour monsieur et bonjour madame.
Bonjour.
Je voulais parler des interprétations qu'on fait des sondages et notamment parler des marges d'erreur. Tous les statisticiens savent que sur les échantillons sur lesquels la plupart des instituts travaillent, il y a une marge d'erreur d'au moins 2%, plus ou moins 2%, c'est-à-dire une plage d'erreur de 4%. Si bien que lorsqu'on entend dire et sur des médias ou bien lire sur des journaux qu'un tel est au second tour, que Pécresse est au second tour, que Zemmour est au second tour, alors que elle ne précède ou il ne précède son concurrent que de 1 ou 2 points, ou quand on entend dire qu'il y a une certaine
dynamique... Oui, j'entends bien, vous voulez nous parler de la fiabilité réalité des sondages par rapport à la marge d'erreur, c'est ça ?
Votre auditeur a parfaitement raison, il est très important à chaque fois de rappeler ces marges d'erreur. D'ailleurs, je trouve qu'on a fait des progrès tous ensemble, que ce soit les médias, les sondeurs, à présenter les choses de manière plus mesuré, en prenant toutes les précautions nécessaires. Vous avez absolument raison de le rappeler, monsieur. Et aujourd'hui, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement un candidat qui, dans les intentions de vote, est au-dessus de 20%. Ensuite, on a un bloc avec un certain nombre de candidats autour des 15, 16, 17, un peu moins, un peu plus. Et encore une fois, on est tôt dans la campagne. Donc oui, vous avez complètement raison de rappeler que les choses sont très ouvertes. Et on vous rappelait en plus tout à l'heure le fait qu'un certain nombre de Français, et un nombre important, sont pas encore rentrés dans la campagne et vont perturber ce jeu, vont continuer à faire bouger les choses. Mais votre prudence, effectivement, vous avez raison de rappeler, il faudrait que tout le monde la partage.
Donc, pièce est en l'air, on peut dire.
Voilà, c'est ça. À 100 jours du premier tour, c'est l'incertitude totale.
Ça, c'est toujours l'incertitude totale à 100 jours du premier tour, d'autant plus dans cette campagne où on voit que la volatilité dont on parle depuis plusieurs années est d'autant plus importante, l'électorat est encore a besoin de se fixer. Un dernier point, ce soir, rapidement, ce sont les vœux, et les vœux, vous savez que c'est la même origine, le mot votum donne les vœux et donne le vote.
Ah ben, c'est, voilà.
Voter, c'était voter, c'est souhaiter.
C'est souhaiter.
Bravo. Merci Édouard Le Cerf. Merci aussi à Thierry Chopin. France Inter.